Bonjour et bienvenue à tous, et en particulier aux vaillants auditeurs qui ont fait le déplacement malgré le froid, le confinement et j'en passe. Alors, nous sommes partis de la formule tellement rebattue mais rarement remise en question, Chine, 5000 ans de civilisation continue, dont nous avons vu qu'elle est loin d'être fondée, mais qu'elle figure au tout premier plan du discours officiel actuel, et aujourd'hui plus que jamais, au point qu'il va bien falloir, à un moment donné, se demander pourquoi. Alors, si vous vous êtes jamais demandé ce que fait de son temps le Politburo du Parti communiste chinois, vous serez sans doute intéressé de savoir que, parmi bien d'autres occupations et préoccupations nationales et internationales, ce Politburo se réunit environ une fois par mois, en général un après-midi vers la fin du mois, pour une séance de travail et d'information qui consiste en un exposé présenté par un conférencier invité, de préférence un expert ou un professeur d'une université ou d'un think tank de renom, qui est convoqué pour parler d'un sujet particulier. Son exposé est suivi d'une prise de parole par le secrétaire général et désormais secrétaire perpétuel, M. Xi Jinping en personne, qui souligne l'importance du sujet en question et qui indique les grandes lignes de l'action à poursuivre à l'avenir. Et ce discours du secrétaire général se trouve ensuite repris et publié en substance ou parfois in extenso dans l'organe qui émane directement du comité central du parti et qui s'intitule si justement Qiushi, qui veut dire rechercher la vérité. Littéralement, Shi, c'est ce qui est, hein, rechercher ce qui est. Donc, bien sûr, enfin, tout ce qui est publié dans, dans cette revue est la vérité. Alors, ici, vous voyez par exemple, sous le titre, Qiushi, une photo de représentants des minorités nationales, comme on les appelle, dans leur costume folklorique très coloré et vraiment très très content d'être là. Alors, au cours des séances de travail de cette année, 2020, il a été question, sans grande surprise, de la gestion parfaitement contrôlée, bien entendu, de la pandémie de coronavirus, mais aussi d'importantes questions concernant, par exemple, la propriété intellectuelle et le recours à l'intelligence artificielle. Dans cette perspective, on sera peut-être quelque peu étonné d'apprendre que la séance du 28 septembre dernier, c'est tout récent, a été consacrée à l'archéologie. Vous avez bien entendu, donc, l'archéologie, sujet sur lequel a été convoqué ce monsieur qui s'appelle Chen Xingcan, qui est un chercheur en archéologie de l'Académie des sciences sociales de Chine, qui est né en 1964. Et alors, non seulement donc cette séance a été consacrée à l'archéologie, mais en plus, le discours du secrétaire général a été ensuite publié in extenso dans cette revue Qiushi. donc qui permet justement une analyse beaucoup plus approfondie que l'habituel résumé qu'on a d'habitude. Dans son discours, le secrétaire général dit ceci: notre pays a 1 million d'années d'histoire humaine, 10 000 ans d'histoire culturelle et plus de 5 000 ans d'histoire civilisationnelle. Les derniers résultats archéologiques montrent que la Chine est la patrie, la mère patrie de l'humanité sur son côté oriental. Et en cela, elle occupe une place primordiale au même titre que l'Afrique pour ce qui est donc des origines de l'espèce humaine. Alors, j'ajoute entre parenthèses que, je rappelle plutôt que de nombreux paléontologues et paléanthropologues chinois récusent purement et simplement la thèse qui fait pourtant consensus au niveau international, cette thèse de l'origine africaine de l'Homo sapiens, le fameux « out of Africa ». Et en sont témoins mes collègues du Collège de France, Jean-Jacques Hublin et Louise Quintana Mursi, qui m'ont chacun d'eux parlé de leurs difficultés, pour ne pas dire plus, à discuter donc de ce sujet avec leurs homologues chinois. Alors, le secrétaire général continue en disant que l'homme de Pékin, c'est lui qui a inventé le feu, la fabrication du feu, il y a 500 000 ans. Et en cela, il a été l'un des premiers dans le monde entier. Et il y a 10 000 ans déjà, nos ancêtres plantaient donc du millet et du riz. Et donc, la Chine est à l'origine donc de l'agriculture, au même titre donc que l'Afrique du Nord. Et il faut encore rappeler donc bien sûr les inventions et diverses découvertes de la Chine pour ce qui est des instruments de musique, des embarcations, des techniques d'irrigation, de l'astronomie. Donc dans tous ces domaines, la Chine arrive en premier ou figure parmi les premiers dans le monde. Et là, d'une façon assez amusante, on croit entendre parler des inventions attribuées à l'empereur jaune que nous évoquions donc la semaine dernière. Alors, le secrétaire général continue en disant que notre pays était un, si vous me permettez cette traduction, un leader mondial dans le développement d'antiques civilisations pendant le néolithique, l'âge du bronze et l'âge du fer. Donc il s'agit bien ici de montrer que la Chine a toujours été, depuis les origines de l'espèce humaine, leader mondial en tout. C'est aussi simple que ça. Et le secrétaire général de rappeler que la civilisation chinoise est la seule civilisation dans le monde qui s'est perpétuée de façon ininterrompue depuis l'Antiquité. Et c'est ce que précisément ce même secrétaire général, M. Xi, rappelait à M. Trump lors de la visite donc, du président américain en Chine en 2017. Et on continue ainsi comme ça. Donc les quatre grandes inventions chinoises, hein, bien sûr, vous les connaissez, l'invention du papier, l'imprimerie, la poudre à canon et la boussole, hein, ainsi que l'invention du lac, de la soie, de la porcelaine et toute la technologie de la production du fer, ainsi que, bien sûr, le système administratif des commanderies établies à partir donc de l'Empire Qin, et pour finir le système des examens impériaux. Tout cela, enfin, ce sont autant de signes distinctifs originaux, hein, et de la civilisation chinoise et de sa contribution à l'histoire de la civilisation mondiale. Alors, donc, fidèle à la tradition, donc le secrétaire général poursuit en détaillant donc les actions à prendre à partir donc de ces constatations. Alors, il annonce que la lutte pour la, enfin dans le domaine de l'histoire et de la culture doit et va continuer pendant très longtemps, et nous devons attacher la plus grande importance au travail archéologique et afin justement de d'utiliser donc la vérité intangible, hein, ou plus exactement la vérité tangible des faits, pour contrer donc toutes sortes de distorsions et d'essais de diffamation donc de l'histoire de la nation chinoise, et de manière à apporter donc un très grand soutien à la promotion de la compréhension de la culture chinoise traditionnelle et au renforcement de ce que M. Xi appelle la confiance en soi culturelle. Mais même le secrétaire général est obligé d'admettre ceci. Il dit il y a encore beaucoup de zones non explorées dans l'histoire ancienne de la Chine, et donc le travail archéologique a encore un long chemin à parcourir. En particulier, il y a encore un grand nombre de trous, hein, ou de lacunes dans l'étude de la dynastie Xia, dont je vous rappelle que beaucoup contestent encore son existence historique, hein, comme on va le voir. Et étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de témoignages écrits, il est d'une importance capitale de confirmer donc ces faits en tant qu'histoire crédible, à travers donc des découvertes archéologiques. Là, vous comprenez donc l'importance justement de l'archéologie pour pallier donc le manque de témoignages écrits. Et par exemple, là, le secrétaire général nous cite quelques exemples. Hein, il se demande par exemple si les trois empereurs et les trois augustes et les cinq empereurs, les Sun, Huang, Wu, Di, qui comprennent notamment justement l'empereur jaune, Huang Di, et l'empereur de feu, Yan Di, dont nous parlions la dernière fois. Donc, est-ce que ces trois augustes et ces cinq empereurs et autres figures préhistoriques mythiques et légendaires, est-ce que ce sont simplement donc des mythes et des légendes, ou est-ce que ce sont des personnages historiques ? La question est posée. Et donc, le secrétaire général en déduit qu'il est nécessaire de développer un système et de soutenir des politiques pour faire en sorte que le travail archéologique vienne en premier et que les transferts de propriété viennent en second, de façon à ce que, par exemple, des terrains qui sont susceptibles de contenir en fait des vestiges historiques ou culturels ne puissent pas être utilisés, bâtis, échangés, transférés jusqu'à l'achèvement donc de l'exploration et de l'excavation archéologique en accord avec la loi. Et donc il s'agit également de réprimer le trafic d'antiquités ou d'objets volés dans les tombes ou à la faveur de fouilles archéologiques. Apparemment, c'est une pratique assez courante. Donc là, que ces criminels se tiennent à carreau. Et enfin, il s'agit d'éduquer et de guider les cadres et les masses, et tout spécialement la jeunesse, pour comprendre la filiation historique de l'origine et du développement de la civilisation chinoise, pour comprendre les réalisations splendides de cette civilisation et les contributions tout à fait significatives de cette civilisation à la civilisation humaine. Donc, pour cela, nous devons continuer à renforcer la cohésion nationale et la fierté nationale. Alors là, le grand mot est lâché. Donc, on nous parle de cohésion et de fierté nationale. Alors, ce discours se situe dans la droite ligne fixée par le parti dès 1996 avec le projet de chronologie Xia Shangzhou, dont le financement par l'État chinois a été inscrit tout simplement dans le 9e plan quinquennal, suivi d'un autre projet, donc du projet d'investigation des origines de la civilisation chinoise, lancé en 2001, projet qui, comme nous l'avions vu, avait pour objectif déclaré de faire remonter l'ancienneté de la civilisation chinoise à au moins 3000 ans avant notre ère, le problème étant et demeurant que les premières traces écrites dont nous disposons ne remontent qu'aux environs de 1500 avant notre ère, c'est-à-dire donc à cette dynastie Shang dont il a été prouvé qu'elle a existé historiquement. Alors, vous voyez que là, il y a encore en fait un certain décalage et il faut encore prouver l'historicité de cette fameuse dynastie Xia qui aurait précédé les Shang de près de 2 millénaires. Donc là, il manque 2 millénaires au compteur. Alors, force est donc d'arriver à cette observation faite d'entrée de jeu dès les premières lignes de leur introduction par les directeurs de ce volume collectif intitulé Nationalism, Politics and the Practice of Archaeology, donc nationalisme, politique et pratique de l'archéologie, dirigé par Philip Cole et Claire Fawcett, publié aux presses universitaires de Cambridge en 1995. Alors pour ceux qui voient l'image, on reconnaît un monument à l'aspect singulièrement familier, je trouve. Ça ressemble quand même furieusement à notre bonne vieille colonne Vendôme, hein, comme symbole national, c'est pas mal. Et alors donc, Philip Cole et Claire Fawcett, dès les premières lignes de leur introduction, écrivent ceci. Archaeology has often been put to political use, particularly by nationalists. It can be argued that there is an almost unavoidable or natural relationship between archaeology and nationalism. Ce qui veut dire, l'archéologie a été souvent sujette à une utilisation politique, en particulier par les nationalistes. On peut dire qu'il y a une relation inévitable, voire naturelle, entre archéologie et nationalisme. Alors, donc, nous avons ici des formules assez carrées, qui font bien pendant aux formules tout aussi carrées, voire musclées du secrétaire général. Mais malgré tout ça, comme on va le voir, l'archéologie chinoise en particulier n'est pas le terrain aride et monocolore qu'on imagine. On s'imagine souvent le travail de l'archéologue comme qui consiste à gratter à la brosse à dents enfin des tessons de peau cassée. Enfin, mais l'archéologie, ce serait bien plutôt une sorte de champ de bataille où le monde entier et toutes les générations depuis un siècle se jettent dans la mêlée générale. Alors, ce volume, dont je viens de citer le titre, comprend principalement des chapitres qui portent sur l'Europe. Alors, l'Europe à la fois occidentale, alors on commence par des en force avec des chapitres justement sur l'utilisation de l'archéologie dans le régime nazi, en Allemagne nazie. Ensuite, il y a également des chapitres qui portent sur l'Europe centrale et l'Europe orientale, c'est-à-dire en particulier l'ex-Union soviétique. Mais il y a une dernière partie qui est consacrée à l'Asie orientale. Vous avez deux chapitres sur la Chine, un sur la Corée et un sur le Japon. Alors, parmi les deux chapitres sur la Chine, vous avez le chapitre 11 qui s'intitule 30 Years of Chinese Archaeology, 1949-1979, donc 30 ans d'archéologie chinoise de 1949 à 1979, qui est dû à ce professeur aujourd'hui décédé du nom de Tong Enzheng, qui a vécu de 1935 et qui est mort en 1997. Alors, ce monsieur était donc adolescent lors de la proclamation de la République populaire en 1949, et il a donc connu l'ère maoïste et a particulièrement souffert lors de la révolution culturelle, et on comprend a posteriori quelles pouvaient être les raisons de ce tourment, puisque il a ensuite persisté et signé en quelque sorte en soutenant le mouvement pro-démocratique de la place Tiananmen en 1989, et en conséquence a dû s'exiler aux États-Unis, où il a fini sa carrière à la Wesleyan University, et où il est mort, pas très vieux finalement, de maladie, hein, dans ce qu'il appelait lui-même un exil volontaire. Et donc le professeur Tong rappelle que ces 30 années, hein, c'est-à-dire entre l'instauration de la République populaire en 1949 et la sortie de la révolution culturelle et de l'ère maoïste à la fin des années 1970, ces 30 années ont été marquées par la prédominance du schéma marxiste et, du moins jusqu'aux années 1960, par l'influence soviétique sur les théories et les pratiques archéologiques en Chine. Alors, son chapitre parle évidemment, enfin, des grands pontes, si je puis dire, qui ont régné sur l'archéologie pendant toute cette période. Vous voyez surgir le nom, par exemple, de Xianai, que vous avez ici en photo, hein, en costume Mao, bien sûr, qui a vécu de 1910 à 1985. Vous voyez donc que sa vie couvre tout le XXe siècle, pratiquement. Et vous avez également le nom de Han Zhimin, qui a vécu de 1924 à 2005 et qui a donc fait toute sa carrière à l'Institut d'archéologie de l'Académie des sciences sociales de Chine depuis donc les années 1950. Alors, ces grands noms de l'archéologie chinoise de cette période ont tendance à privilégier la thèse dite centraliste, selon laquelle la civilisation chinoise s'est développée à partir d'un noyau unique situé dans le bassin moyen du fleuve Jaune, hein, dont je vous rappelle le tracé ici. Et vous avez par exemple une citation de Han Zhimin qui a déclaré que seules les cultures qui ont fleuri, qui se sont épanouies à l'âge de pierre, à l'âge au néolithique, dans cette vallée du fleuve Jaune, seules ces cultures ont établi la fondation de la civilisation chinoise. Et le développement des autres cultures régionales a été influencé disons, encouragé par les cultures plus avancées, donc justement de cette vallée du fleuve Jaune. Alors, le professeur Trong explique cette insistance sur cette thèse centraliste par le contexte politique. Puisque, en effet, pendant ces 30 années, la situation politique de la Chine exigeait l'obéissance, la soumission des régions locales et surtout des régions périphériques au centre politique situé à Pékin, donc, c'est-à-dire justement dans cette zone de la vallée du fleuve Jaune. Et donc, c'était une période qui, évidemment, mettait en avant la centralisation du pouvoir et qui soulignait donc la supériorité culturelle de l'ethnie dite dominante, c'est-à-dire l'ethnie Han, dont il était supposé que c'était précisément les habitants de la vallée du fleuve Jaune dans la Haute Antiquité. Et donc, le professeur Trong rappelle que la mission de l'archéologie chinoise à cette époque, c'était de, on cite, servir donc la politique du prolétariat. Et tout ça, ça explique évidemment toutes ces prises de position théoriques sur l'archéologie. Et évidemment, le nationalisme de ces autorités académiques chinoises ne se reflète pas simplement dans justement la philosophie sous-jacente à tout leur travail, mais aussi elle se traduit dans le refus systématique de coopérer avec des collègues occidentaux qui n'ont à aucun moment jamais pu obtenir des données au-delà en fait, de ce qui était publié en fait, officiellement dans les trois grands journaux d'archéologie, à savoir Kaogu Wenwu et Kaogu Xuebao. Donc, toutes les informations qui n'étaient pas publiées dans ces revues officielles étaient absolument indisponibles pour les collègues étrangers et les étudiants occidentaux qui choisissaient justement de s'intéresser à l'archéologie chinoise ou même qui étudiaient dans des universités chinoises n'étaient pas autorisés donc à prendre part donc aux fouilles archéologiques. Alors, dans ce tableau très très centraliste, rares ont été les archéologues de ces 30 années à s'opposer à cette thèse et à défendre au contraire l'idée de multiples foyers de civilisation comme l'évoque le schéma que vous avez ici. Alors, la rare exception que certains d'ailleurs considèrent un peu comme un héros, parce qu'il n'a jamais voulu démordre justement de ses positions, c'est le professeur Su Bingqi, que vous avez à droite sur la photo. Vous voyez qu'il a une tête plutôt sympathique, hein, outre qu'il faisait de la résistance, mais il a vécu donc lui aussi pendant tout le XXe siècle, entre 1909 et 1997. Et vous le voyez ici, j'aime beaucoup cette photo parce qu'on le voit assis à côté d'un autre très grand nom de l'archéologie chinoise qui s'appelle Zhang Guangzhi, qui a vécu donc de 1931 à 2001. Alors nous allons avoir bientôt l'occasion de revenir sur ce professeur Zhang Guangzhi, mais pour l'instant, pour parler donc des thèses de Su Bingqi, il semblerait que la thèse anticentraliste de Su Bingqi faisait référence à tradition ouverte par la nouvelle historiographie de l'ère nationaliste, c'est-à-dire en fait de l'époque républicaine sous le règne du Kuomintang, donc avant 1949, qui, au lieu de considérer l'histoire ancienne chinoise comme ayant une origine unique et comme suivant un modèle de développement unilinéaire, donc cette nouvelle historiographie assignait des origines multiples à la civilisation chinoise et était persuadée que ces origines multiples s'étaient développées selon des trajectoires également multiples au niveau régional. Alors vous avez quelques grands noms qui sont associés justement à cette nouvelle historiographie pré-1949. Vous avez par exemple le grand historien Fu Sunyan, qui a vécu de 1896 à 1950, qui a développé une thèse, bon, qui a été abandonnée depuis, mais enfin, qui vous montre qu'il essayait vraiment très, très fort de penser, en fait, quelque chose qui soit multicentré. Il a cru percevoir en fait une distinction entre une population qu'il appelait les Yi, que les sources anciennes considèrent comme les barbares de l'Est, ces Yi auraient été à l'origine de la culture Longshan, que l'on date d'habitude de 2600 à 2000 avant l'ère chrétienne. Alors ces Yi de l'Est auraient été basés dans l'actuelle province du Shandong, donc à l'extrême est de la Chine. Et de l'autre côté, vous auriez un autre foyer que Fu Sunyan met sous la dénomination des Xia, c'est-à-dire des Chinois, incarné par la culture Yangshao à l'ouest. Et il va même jusqu'à considérer que la culture Longshan, donc à l'est, a été à l'origine de la civilisation Shang, alors que Yangshao, à l'ouest, était considéré comme l'origine des Zhou. Bon. Alors, évidemment, Fu Sunyan, opérant dans les années 1930, ne disposait pas en fait, de toutes les découvertes archéologiques qui ont été faites entre-temps, et donc élucubrait un petit peu dans son coin. Hein. Bon, donc, comme je disais, sa thèse a été abandonnée, mais enfin, ça vous montre quand même la tendance générale. Hein. Vous avez un autre grand nom de l'archéologie, en la personne de Xu Sheng, qui a vécu entre 1888 et 1976. Et ce Xu Sheng a été le mentor de Su Bingqi quand il était encore un débutant. Et ce Xu Sheng, en fait, ajoute encore un troisième foyer possible de civilisation au sud, avec ce qu'il appelle les Miao, et qu'il situe donc dans le bassin moyen du fleuve Yangtze, donc beaucoup plus au sud. Alors, cette thèse, disons, multicentrée, a trouvé également un certain crédit auprès de ce troisième grand nom de l'époque, à savoir le professeur Li Ji, qui a vécu de 1896 à 1979. Alors, tous ces grands noms ont formé justement les générations post-49, que ce soit à Taïwan ou en Chine populaire sur le continent, en archéologie. Mais alors, évidemment, force est de constater qu'après 1949, sur le continent, on est revenu justement à un schéma beaucoup plus centraliste, hein, et dans lequel Su Bingqi fait véritablement exception. Alors Su Bingqi, c'est alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous ennuyer. D'autre part, nous ne sommes pas ici pour discuter des détails techniques de l'archéologie, mais à partir des années 1980, Su Bingqi, on a rajouté une couche, si j'ose dire, en distinguant pas moins de 6 foyers différents de civilisation dans toute la Chine. Alors vous avez un foyer au centre de la Chine, à l'est, au milieu, au centre, dans la région du Hubei. Donc là, je parle à certains de mes auditeurs ici présents. Ensuite, un autre foyer dans le delta du Yangtze, plus à l'est, et également un foyer au sud de la Chine, dans le delta de la rivière des Perles, et enfin une zone au nord qui serait des deux côtés de la Grande Muraille. Et pour complexifier encore la chose, le professeur Su émet l'hypothèse que chacun de ces grands foyers comprenait encore un certain nombre de sous-régions. Donc là, vous voyez que pourquoi maintenant on le considère un petit peu comme un héros, parce qu'il se détachait véritablement du schéma centraliste dominant. Alors, pour en venir maintenant au deuxième chapitre consacré à la Chine dans ce volume collectif sur les rapports entre nationalisme et archéologie, c'est un chapitre qui s'intitule « The Regionalist Paradigm in Chinese Archaeology », c'est-à-dire donc le paradigme régionaliste dans l'archéologie chinoise, qui est dû à ce monsieur qui s'appelle Lothar von Falkenhausen, qui est né en 1959 et qui est actuellement l'un des plus éminents spécialistes occidentaux de l'archéologie en terrain chinois. Alors, comme son nom l'indique, il est d'origine allemande, donc c'est un Européen. C'est quand même à noter, et c'est même, on pourrait dire, quelqu'un d'origine aristocratique vu sa particule, hein, c'est bien von Falkenhausen, mais qui a fait sa carrière aux États-Unis, et qui est actuellement professeur donc à UCLA, donc University of California at Los Angeles. Alors, quand je disais tout à l'heure que l'archéologie chinoise, c'est un champ de bataille où tout le monde vient se jeter dans la mêlée, donc vous voyez, nous avons parlé jusqu'à maintenant de grands noms de l'archéologie chinoise proprement dite, mais maintenant, vous avez également donc les Américains ou assimilés, ou les Européens qui se jettent dans la bataille. Alors, dans ce chapitre, le professeur von Falkenhausen nous explique que donc il parle en 2005 et il dit que depuis une décennie, donc il parle en gros des années 1990, l'étude de l'archéologie préhistorique et de l'histoire ancienne en Chine a subi un changement radical de paradigme, puisque jusque à la fin des années 70, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'ère maoïste, en gros, on a vu que prédominait cette thèse selon laquelle la civilisation chinoise a pris son origine donc dans le bassin moyen du fleuve Jaune et a rayonné à partir de là. Ça, c'est donc le modèle mono foyer qui donc a donné lieu évidemment à pas mal de développement à partir de là. Et donc, c'est un modèle qui a tendance à exclure, enfin évidemment, l'aspect régional, hein, et qui exclut totalement alors les zones périphériques qui sont occupées par ce que la Chine communiste appelle justement des minorités nationales. Hein. Et donc là, nous sommes évidemment dans un schéma de l'entre-soi. Alors, le professeur von Falkenhausen donc, nous rappelle que pour le public occidental, on a pu suivre justement l'émergence à partir de ce schéma premier à travers les 4 éditions de ce fameux livre qui s'intitule « The Archaeology of Ancient China », l'archéologie de la Chine ancienne, du professeur Zhang Guangzhi, dont je parlais tout à l'heure, que vous avez vu en photo à côté du professeur Su Bingqi. Et vous voyez que cet ouvrage, vraiment, c'est une véritable Bible hein, à laquelle on s'est référé pendant des générations, donc a été publié par les presses universitaires de Yale et a connu donc 4 éditions. La première en 1963, ensuite une deuxième en 68, une troisième en 77 et enfin une quatrième en 86. Donc là, en fait, ce sont 4 éditions qui recouvrent presque 3 décennies. Alors, ce professeur Zhang Guangzhi, c'est vraiment un nom qui prédomine justement dans l'histoire de l'archéologie chinoise moderne. Alors, vous remarquerez que son nom est ici donné dans l'ordre occidental, hein, Guangzhi Zhang. Alors ça, c'est l'habitude américaine d'occidentaliser les noms chinois, c'est-à-dire en fait au lieu de mettre à la chinoise le nom de famille en premier, donc on le met en dernier comme dans les noms occidentaux. Et d'autre part, vous remarquez aussi que le système de transcription n'est pas le système de transcription qui est utilisé en Chine populaire, le système pinyin, mais ici il s'agit donc du système anglo-saxon dit Wade-Giles. Alors c'est pour ça aussi que ce professeur est appelé familièrement hein, par ses étudiants et par ses nombreux collègues Casey, hein, donc Guangzhi donne Casey ou Casey Zhang. Hein. Alors, il est originaire d'une famille de Taïwan, hein, mais il est né à Beijing, qui à l'époque s'appelait Beiping, en 1931. Et ensuite, il a obtenu son diplôme universitaire à l'Université nationale de Taïwan en 1954 et a obtenu son doctorat de PhD à Harvard, donc aux États-Unis, en 1960. Et après cela, donc, il a fait toute sa carrière aux États-Unis. Il a d'abord enseigné à Yale, avant de retourner à Harvard où il a fini sa carrière et où il est mort donc en 2001. Alors, la première édition de ce livre, hein, qui date de 1963, donc, présente toujours cette thèse que l'agriculture en Chine a commencé dans ce foyer central au confluent du fleuve jaune, de la Wei et de la Fen, donc selon le schéma que je, enfin la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, hein. Et le professeur Zhang donc développait une ligne droite, hein, à partir de là vers justement le début et l'essor des sociétés plus complexes et de la civilisation dynastique. Et alors donc ce schéma centraliste évolutionniste se reproduit, se retrouve sous une forme plus ou moins identique dans les deux éditions suivantes, de 68 et 77, mais de manière intéressante, on la voit abandonnée dans la quatrième édition de 1986, où là, en fait, l'auteur reconnaît que on a retrouvé en fait des vestiges de pratiques agricoles dans un certain nombre de régions différentes à travers le nord et le sud de la Chine. Et c'est ce qui a amené donc le professeur Zhang Guangzhi à développer le concept de ce qu'il appelle la Chinese Interaction Sphere, c'est-à-dire donc la sphère d'interaction chinoise. Alors, au lieu de parler maintenant d'un foyer unique, il parle d'une sphère d'interaction. Donc, il élargit un peu son champ de vision hein, pour pouvoir intégrer justement plus de dimensions régionales. Alors, pour en revenir justement à ce propos du professeur von Falkenhausen dans ce chapitre où il parle de changement de paradigme des années 1990, il attribue donc ce changement de paradigme. Hein, alors le changement de paradigme en question, en fait, c'est le passage d'une vision très très centralisée à une vision beaucoup plus régionaliste. Et il attribue ce changement à des changements dans les structures idéologiques et administratives dans lesquelles les archéologues chinois étaient amenés à travailler. De la même façon que le professeur Tong Enzheng, établissait un lien justement entre cette vision centraliste de l'archéologie et la vision politique centraliste de Pékin hein, pendant l'ère maoïste. De la même façon, le professeur von Falkenhausen donc voit justement une ouverture vers la dimension régionale avec l'ère Deng Xiaoping à partir donc des années 1980, l'ère Deng Xiaoping qui est censée avoir représenté une forme de libéralisation, en tout cas de l'économie, et qui donc explique peut-être justement cette ouverture sur les régions. Et évidemment, le professeur von Falkenhausen, qui n'est pas tout à fait dupe, remarque que ce n'est pas parce qu'il y a cette ouverture sur les régions, qu'il y a cette nouvelle forme régionaliste, qu'elle ne reste pas centraliste. Parce que, en fait, ce sont maintenant les régions qui sont chacune une sorte de centre, enfin de foyer de civilisation, et chaque région ou chaque province même revendique justement sa propre centralité dans le tableau civilisationnel. Nos auditeurs ici qui ont bien connu la région de Wuhan peuvent en témoigner. Hein. Donc il y a une sorte de chauvinisme régional hein, qui est très très fort actuellement en Chine. Ce même professeur von Falkenhausen, dans un article plus ancien publié dans la grande revue d'archéologie Antiquité hein, qui date de 1993, dresse un tableau très clair de l'histoire et des pratiques chinoises de l'archéologie à l'ère moderne et des distorsions qu'elle révèle. Le professeur von Falkenhausen part de des pratiques de l'historiographie chinoise traditionnelle, dont il remarque qu'elles sont, que les annales, par exemple, dynastiques, sont très très fortement focalisées sur le personnage du souverain, hein, de l'empereur et de la dynastie régnante. Et ces annales reflète essentiellement donc les interprétations officielles de la cour, hein, et donc vous avez déjà en fait dans la tradition historiographique chinoise cette tendance top-down, hein, c'est-à-dire du haut vers le bas, que nous remarquions la dernière fois. Alors naturellement, c'est une historiographie qui est quand même très très sino-centrée, hein, et qui est de plus subordonnée à la notion d'une continuité culturelle, ethnique et historique ininterrompue, hein, accompagnée justement d'une très très forte notion d'unité. Donc, au fond, si vous prenez les annales dynastiques, vous avez en fait des séquences d'événements unilinéaires, hein, et qui ont une fâcheuse tendance à négliger complètement, à laisser de côté les traditions locales. Et enfin, cette historiographie traditionnelle chinoise est très fortement marquée par une tendance moralisante, hein, qui se traduit donc en termes politiques. Alors ici, le professeur von Falkenhausen remarque quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que, au fond, l'archéologie chinoise à ses débuts, hein, a été finalement assez tributaire de ce qu'on a appelé l'antiquarianisme traditionnel chinois, hein, ce qu'on appelle en chinois le Qin Shi Xue, hein, c'est-à-dire donc l'étude littéralement du Qin, c'est-à-dire du métal ou du bronze, et de Shi, c'est-à-dire de la pierre, ou quelquefois plus spécifiquement du jade. Alors, le Qin Shi Xue, c'est un petit peu le propre des, notamment des amateurs et des collectionneurs d'antiquités dans l'histoire chinoise, une pratique qui a fleuri en particulier à partir de la dynastie Song. Hein. Et jusqu'à maintenant, en fait, l'usage populaire se réfère justement à ces deux pratiques, c'est-à-dire à la pratique de l'antiquarianisme traditionnel et de l'archéologie. On s'y réfère par le même mot, qui est ce mot « kao gu », qui veut dire littéralement « kao », examiner, mener des enquêtes, une investigation dans le « guo », c'est-à-dire dans l'ancien, l'antiquité. Et ce mot qui était utilisé à l'origine par justement en fait ces collectionneurs de la dynastie Song a été repris, hein, par les traducteurs japonais de la fin du XIXe siècle pour traduire le terme occidental d'archéologie. Et c'est ce mot, hein, qui a été réintroduit ensuite dans le vocabulaire chinois moderne. Et comme on va le voir dans les cours qui suivent, ce processus d'invention japonaise de néologisme moderne, à partir du chinois, et ensuite réintroduit dans le vocabulaire chinois, concerne bien d'autres mots et de concepts venus d'Occident. Donc là, en fait, il y a toute une infrastructure lexicologique que nous devons justement à la médiation japonaise et qui est ensuite réintroduite clé en main donc dans le vocabulaire moderne chinois. Alors le professeur von Falkenhausen donc explique que justement en fait le patronage de l'État chinois accordé à l'archéologie, hein, que nous avons vu justement dans ces dernières séances et encore aujourd'hui, hein, se paye à un certain prix, c'est-à-dire que d'une part, du moins jusqu'à la fin des années 70, il y avait justement en jeu la légitimation du régime par l'idéologie marxiste, hein, c'est moins vrai aujourd'hui, hein, mais ce qui prédomine aujourd'hui, hein, comme enjeu, c'est justement, comme disait le secrétaire général tout à l'heure, donc la glorification de l'identité nationale et donc de la loyauté patriotique. Ce patronage de l'État se traduit également en termes de soft power chinois. Nous avons tous au moins une fois dans notre vie visité, fait la queue, été pressé comme hareng en cac dans des grosses expositions organisé par la Chine avec des collections venues de Chine d'objets exhumés des tombes ou résultant de fouilles archéologiques et qui montrent justement que la Chine est en digne compétition avec d'autres civilisations et en particulier avec la Mésopotamie et l'Égypte. On peut dire par exemple que vous avez ici un exemple de ces masques de bronze très énigmatiques qui proviennent du Sichuan. Bien sûr, tout le monde connaît ces guerriers en terre cuite provenant de la tombe du premier empereur. Donc ces grosses machines que sont ces expositions qui voyagent donc un peu partout dans le monde sont chargées de répandre le soft power chinois, mais aussi justement de chanter la gloire et l'antiquité donc de la civilisation chinoise. Mais malgré tout ça, et j'en terminerai là aujourd'hui, le professeur von Falkenhausen persiste à nous rappeler que jusqu'à maintenant, toutes les fouilles qui ont été pratiquées depuis des décennies, qui ont permis en particulier de mettre au jour en fait, des vestiges de l'époque Shang, qui remontent jusqu'au deuxième millénaire avant l'ère chrétienne, toutes ces fouilles et découvertes n'ont pas fait ressortir donc de vestiges écrits de la dynastie Xia. Et vous allez voir la prochaine fois qu'il y a véritablement là une bataille sur cette question donc qui reste encore une question ouverte, comme l'admet le secrétaire général lui-même. Donc, merci de l'attention des auditeurs présents et donc j'espère à la semaine prochaine pour une dernière séance avant le congé de Noël et en espérant une réouverture de cet amphithéâtre en janvier, mais rien n'est moins sûr. Bien, au revoir. Merci.